Le LEM le vendredi se balade de temps en temps sur notre territoire pour des émissions plus proches des gens du Finistère. Aujourd'hui, on a posé notre matos dans un bar, le Timat de Port-Launay, pour donner la parole aux élus, pour parler de restructuration d'une école et d'éco-pâturage, et bien sûr donner la parole aux gens qui font les petites communes du territoire.
LEM, l'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans LEM, l'émission ouverte aux personnes qui font le Finistère et qui veulent en parler. C'est sur le 100.4 FM de Transistor et parfois sur le DAB+ de BOA, la radio régionale. Vous êtes en direct avec nous de midi à 13h et en rediff le soir même à 18h. Et puis bien sûr sur internet à transistor.bzh et ce pour l'éternité. Quand on parle d'école dans les petites communes, l'actualité nous ramène souvent à des suppressions de postes ou des fermetures d'établissements. Mais il existe aussi des communes qui tiennent à conserver ces structures sur leur territoire. Et ça, on en parle moins. Alors aujourd'hui, je suis à Port-Launay pour parler de tout le travail qui a été fait pour la restructuration de son école. Pour en parler avec moi, il y a Gaël Calvar, qui est le maire de Port-Launay. Et puis vous êtes accompagné par Bernard Leguillou, qui était élève à l'école de 1953 à 1958. Vous êtes venu témoigner un petit peu de l'histoire de cette école. Bonjour messieurs. Nous sommes donc aussi en direct, hein, donc, comme je le disais, depuis le bar de Timat de Port-Launay. C'est juste à côté du bâtiment qui va être restauré. Merci beaucoup à Amélie Lehir, qui est gérante de l'établissement et qui a bien voulu nous accueillir. Alors Port-Launay, hein, c'est une petite ville, un petit village breton de 400 âmes qui se trouve au bord du canal de Nantes à Brest, entre Châteaulin et Pont-de-Buy. C'est un petit village de 2 km², hein, c'est l'équivalent de Monaco, l'argent en moins. Et au milieu de ce village, et bien comme tout village qui se respecte, il y a une place, une église et une école. Alors le bâtiment dont il est question, c'est le bâtiment qui se trouve juste à droite de l'église. Hein, il est vraiment accolé à cette église et c'est un bâtiment qui a toujours eu pour vocation de servir la population. Ce bâtiment a été construit en 1894, hein, si j'ai bonne mémoire. Ce bâtiment a toujours hébergé au moins une école et une mairie.
Ça a toujours été sa fonction.
D'accord. Alors ça fait 2 ans à peu près, hein, je crois, que vous avez décidé de faire déménager un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur, donc c'est-à-dire le bureau de poste, si je ne me trompe pas, la mairie et l'école, c'est ça ?
C'est ça.
Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on soit obligé de prendre de telles mesures ?
En fait, le bâtiment, depuis 2011, a commencé à avoir des signes de faiblesse, des fissures, des problèmes de structure. Et quand on a été élu en 2020, le jour de l'élection du maire, on a appris que le bâtiment était quand même bien pourri et que un expert avait conseillé de vider le bâtiment et de mettre les enfants en sécurité et la mairie ailleurs. Donc c'est ce qu'on a fait. Dans les semaines qui ont suivi, on a mis les enfants dans la salle des fêtes, hein, le temps de trouver une nouvelle école. Et là, on les a installés dans des bâtiments modulaires sur le parking de la garderie, où ils sont très bien. Ils sont en sécurité, ils sont au chaud. Et un an plus tard, on a aussi délocalisé la mairie dans un ancien commerce. Comme ça, maintenant, le bâtiment, il est vide. Et tout le monde est dans des bâtiments sécurisés.
Alors l'école, l'école actuelle, elle se trouve juste derrière.
Juste derrière.
Juste derrière ce bâtiment-là. C'était quoi l'impact pour la commune de ce déménagement en termes de réorganisation ? Alors on parle des bâtiments, des bâtiments modulaires, c'est ça ?
Ouais, des bâtiments modulaires. Il a fallu trouver déjà un prestataire pour nous mettre des bâtiments modulaires.
Ouais.
Et après l'impact, ça a été déjà de déménager, de faire installer ces bâtiments-là, de déménager.
Ça a pris du temps ?
Non. C'était en une matinée, c'était fait, parce qu'on a des habitants sur la commune qui nous ont aidés, les parents d'élèves. Ouais. En une matinée, on avait fait le déménagement. Après, l'impact a été plus pour les enfants d'avoir une nouvelle école, mais des bâtiments modulaires, en fait, c'est des belles classes déjà, donc les enfants étaient assez content d'être dans ces classes-là. Puis c'était la cour de la garderie, donc ça ne les changeait pas ça échangeait pas beaucoup.
Alors, c'est des bâtiments qui ont été achetés par la mairie, ces bâtiments modulaires, ou
non,
c'est de la location ?
C'est de la location. Donc, on paye un loyer, là, tous les mois, à une société.
On peut savoir
Porte à cabine, et oui, et c'est entre l'école et la mairie, là, qu'on loue aussi dans un ancien commerce, on est à 24-25 000 euros par an de loyer.
D'accord. Ça fait beaucoup dans le budget ?
Ah, c'est une grosse partie du budget,
ouais.
Ouais. Mais au moins, on n'a pas fermé l'école et on n'a pas fermé la mairie et nos enfants sont en sécurité.
Tous les enfants sont restés qui étaient à l'école ? Il y en a qui sont partis aussi dans d'autres communes ?
Non, 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 tout le monde est resté et on en a même plus maintenant qu'on en avait à l'époque. Donc ça n'effraye pas les familles et c'est des beaux bâtiments.
Très bien. Alors quand le bâtiment a été complètement vidé, quelles options sont arrivées à vous ? Est-ce qu'il a été question de démonter, de détruire, comme disait Amélie tout à l'heure, le bâtiment ?
Alors, quand on a su qu'il fallait qu'on le rénove, on s'est appuyé sur un acteur local pour nous aider là-dessus, c'est l'OPAC de Quimper, donc qui fait du bâtiment HLM, mais qui a une très bonne expertise dans la rénovation. Et une des options, parce qu'on avait trois options, soit c'était de rénover l'intérieur, soit c'était de démolir, ou de faire ailleurs. Et de faire ailleurs, c'est pas possible, la commune est trop petite, donc on n'a pas de terrain libre. Et une des options qui nous coûtait le moins cher, c'était de démolir. Donc ça a été une des options envisagées. Et après avoir discuté avec les Bâtiments de France, la direction des affaires culturelles de Bretagne et surtout le préfet, on s'est rendu compte que cette option ne passerait pas.
Pourquoi ?
Donc, parce que c'est un bâtiment emblématique de Port-Launay, de la place, il ferme bien la place, c'est un très beau bâtiment. Et donc on a décidé de le garder, mais pour ça... Le préfet s'est engagé à nous aider et on a eu beaucoup de subventions pour pouvoir le garder. Et depuis, il est classé. Il est classé au monument historique.
D'accord, donc vous le savez juste là, en fait, qu'il est classé monument.
Bah, c'est grâce à notre démarche que les affaires culturelles de Bretagne ont décidé de classer ce bâtiment.
Ça vous a posé des contraintes en termes de projet ? C'est quoi la différence quand on rénove un bâtiment ordinaire et quand on rénove un bâtiment qui est classé ?
Alors, c'est des contraintes architecturales. On ne va pas pouvoir mettre de fenêtres plastiques sur le bâtiment. Mais ce n'était pas non plus notre souhait. Mais ça nous apporte beaucoup de subventions aussi. Mais en contrainte, après, c'est de travailler avec les Bâtiments de France et de travailler avec l'architecte des Bâtiments de France pour voir quels murs on doit garder, quelles ouvertures on a droit de faire. Est-ce que ça va être sur les couleurs aussi du bâtiment et sur l'extérieur ? Mais l'architecte nous disait en réunion, de toute façon, il sait qu'on est une petite commune, il sait que si on veut avancer sur le projet, bah, il faut que chacun mette un peu d'eau dans son vin aussi. Hein. Donc voilà, il sera facilitant sur le dossier tout en conservant l'intérêt architectural du bâtiment.
Alors, rénover un bâtiment comme ça, c'est un peu complexe, c'est même très complexe, d'autant plus qu'il accueille deux fonctions différentes, ce qui veut dire deux cahiers des charges différents, peut-être même... deux mises aux normes différentes, parce qu'il y a l'accueil au public et puis il y a aussi l'école, hein, c'est deux choses vraiment radicalement différentes. Est-ce que vous avez été accompagné ? Parce qu'en plus de ça, j'imagine que les élus de Port-Launay, c'est des gens qui ont une autre fonction. Bah, vous-même, vous êtes, je crois, directeur des PAGA, hein, c'est bien ça ?
Oui, oui.
Donc j'imagine que vous avez autre chose, enfin vous ne pouvez pas être sur tous les fronts. Est-ce que vous avez un accompagnement
Oui, on est accompagné par l'OPAC et les techniciens de l'OPAC qui savent faire des rénovations, qui savent faire des marchés publics là-dedans. C'est vrai que nous, les élus, moi je suis informaticien de métier, le premier adjoint est gendarme de métier. On peut pas dire que les marchés publics de travaux, ce soit notre savoir-faire. Par contre, on a su trouver les bons interlocuteurs et l'OPAC a répondu là-dessus. Après, sur les normes, oui, maintenant, les écoles, il faut qu'elles soient protégées. Une école, on ne peut pas rentrer dans une école comme ça. L'école doit être fermée, doit avoir un accès différent de la mairie. Il ne faut pas que du public puisse aller à l'école. Donc ça, c'était une problématique. Et c'était aussi une problématique de savoir qu'est-ce qu'on faisait des autres étages, parce qu'il y a deux étages qu'on ne rénove pas. Est-ce qu'on pouvait en faire du logement ? Non, ça devenait compliqué d'avoir un troisième usage dans un bâtiment qui doit être sécurisé. Et pareil, la mairie, aux heures de fermeture de la mairie, on ne peut pas rentrer dans une mairie comme ça. Donc, on a plusieurs problématiques sur ce bâtiment-là. Et donc, on ne garde que deux usages. Ça respecte nos coûts et la facilité du bâtiment.
Et vous verrez certainement plus tard pour...
On verra plus tard si on utilise les deux autres étages, mais pour l'instant, non.
Est-ce que vous avez eu besoin d'être formé justement pour comprendre et puis toutes ces nouvelles normes ?
Non, on est bien accompagné. Après,
ça suffit.
Oui, c'est toute la partie technique, c'est l'OPAC qui gère. Ouais.
D'accord. Donc la première étape de ce projet, c'est faire, j'imagine, une évaluation initiale, non seulement du bâtiment, mais aussi des ressources de la commune. Je pense que c'est on commence par ça. Quel a été le diagnostic technique du bâtiment ? Est-ce que vous avez découvert d'autres problèmes structurels ?
Non, c'était le plus important. C'était que la façade, elle est en train de se décrocher, elle va tomber. Hein. Le sol, c'est déjà beaucoup. Mais le reste du bâtiment, la toiture avait déjà été revue, mais tout sera revu dans le détail lors des travaux. Donc, là-dessus, sur la technique, il n'y a pas de souci. Après, par contre, il a fallu faire une estimation financière.
Oui.
Et de voir les incidences sur le budget. Et là,
c'est ce qu'on appelle une étude de faisabilité.
Voilà. Et là, on a été aidé par les services donc des finances publiques et de la Caisse des dépôts et consignations, qui est un service de l'État aussi, pour voir si financièrement, si la commune pouvait le supporter.
Alors, est-ce que la commune peut le supporter ?
Et ça nous a donné une marge maximum, un budget maximum à ne pas dépasser pour les finances de la commune, qui était de 700 000 euros et qu'on a diminué à maximum 600 000 au vu des taux d'emprunt actuels. Donc voilà, la commune, on n'ira pas au-delà de 600 000 euros, nous, de dépenses sur le budget propre de la commune. Donc le reste, il faut le trouver en subvention.
Ouais, donc il restera
sur les 2 millions de budget, il restera 1,4 million à trouver en subvention. Et là, clairement, c'est mon boulot. C'est d'aller faire le commercial et d'aller voir Maël de Calan au département, d'aller voir le préfet, la sous-préfète de Châteaulin. Et on a été très bien aidés là-dessus. Donc nos subventions, on les aura. On est avec les affaires culturelles de Bretagne, vu que le bâtiment est classé. Voilà, là, c'est un boulot de tous les jours, un boulot de VRP et d'aller voir les partenaires pour chercher des sous et le moindre euro. Ouais.
Donc ça y est, les plans sont faits. Vous avez vu un architecte ?
Les plans sont faits, l'architecte est choisi, c'est l'architecte de l'OPAC et il nous suit depuis le départ. Les plans doivent être au 15e ou 16e plan différent depuis le départ, mais c'est bon, ils se finalisent. Mais on a aussi travaillé beaucoup avec des enseignantes parce que clairement, c'est pas moi qui vais utiliser le bâtiment plus tard. Moi, je suis que de passage, mais c'est les enseignantes et les enfants qui utiliseront, donc il fallait que ça leur convienne à elles aussi. Donc c'est travailler avec la directrice de l'école, avec le personnel communal. Voilà, il ne faut pas oublier non plus que dedans, il y aura et la secrétaire de mairie, mais aussi la personne qui fait le ménage et qui... elle aussi, elle a besoin d'un local pour ça. Donc voilà, ça, il faut penser à tout le monde. Oui.
Ouais, et c'est quoi les normes actuelles, alors, quand on a un bâtiment administratif et une école
C'est les normes, ce qu'on appelle ERP, établissement recevant du public. Donc après, ça va passer aussi dans les mains des pompiers, de la commission de sécurité, pour voir si on a toutes les sorties possibles, si on a bien mis... Et les détecteurs d'incendie, si les portes sont bien placées.
Les rampes d'accès, la taille des portes.
Les normes handicapées, on est sur un bâtiment avec étage, donc normes handicapées. Donc, c'est des questions à se poser. Et comment on fait si jamais un jour on a un enfant en fauteuil dans ce bâtiment-là ? Comment on fait pour pouvoir l'accueillir ? Et qu'on ne se pose même pas la question de si on peut l'accueillir ou pas, on doit l'accueillir.
Est-ce qu'il y a eu des gros problèmes pendant toute cette phase-là ? De préparation.
C'est plus le problème de compréhension, de taille de classe, par exemple. Parce que, alors Bernard en parlera tout à l'heure, mais avant, une classe, 40 mètres carrés pour une classe, ça paraissait normal. Maintenant, on a deux classes, une maternelle CP et une CE1, CE2, CM1, CM2. Mais ils sont 17, 18 dans la classe, mais on a besoin... Avant 40 mètres carrés, maintenant on est plus vers des 60 mètres carrés. Parce qu'on a des outils numériques, on a un espace pour mettre des ordinateurs, on a un espace bibliothèque, on va avoir un espace, pourquoi pas, plutôt jeu ou détente avec un petit canapé, des fauteuils pour qu'ils puissent arrêter de travailler sur table et aller lire un livre. Donc on est sur des plus grosses surfaces, mais ça il faut réussir à le faire rentrer dans un bâtiment qui n'est pas extensible. Et un budget qui n'est pas extensible. Donc, Voilà, il faut réussir à faire comprendre à l'architecte que, bah non, 45 mètres carrés, c'est pas possible. Voilà, qu'on va devoir rogner sur un espace de couloir, un espace d'accueil, que par contre, que pour la partie mairie, que le bureau du maire, c'est indispensable. Il faut que les élus, pas que le maire, mais que les élus puissent voilà, recevoir quelqu'un en fermant la porte, parce que ça peut être une situation compliquée, donc voilà.
Est-ce que vous aviez des souhaits, des objectifs supplémentaires à mettre en place sur ces plans ?
Le premier souhait de l'équipe municipale, c'était de toute façon de garder l'école. Voilà, ça c'était la priorité, donc il fallait tout faire pour pouvoir faire ces plans. Donc, après, il y avait des concessions, voilà, mais c'était... Après, on est une petite commune, on n'a pas de gros budget, donc... On n'aura pas du luxe dans l'école, voilà. Personne verra de marbre au sol et on va être sur des matériaux peut-être moins chers qu'ailleurs. Mais il faut qu'on puisse avoir une école et donc on va réduire le budget pour réussir à faire ce qu'on a besoin de faire dans une petite école rurale et pas une grosse école de ville.
Vous avez fait un référendum ou demandé un petit peu aux habitants, vous les avez consultés?
Alors, quand il s'agit de voir si on démolissait ou si on gardait le bâtiment, on a réuni des habitants. Mais depuis, en fait, on leur présente des plans. On travaille avec les parents d'élèves aussi en leur présentant des plans, en leur montrant. Mais non, on n'a pas eu besoin de faire un référendum là-dessus. De toute façon, c'était le projet de la municipalité et on avait été élus pour ça aussi. Donc, comme on dit, vas-y, fonce, quoi.
C'était le plus gros projet.
Oui. C'est après les falaises qu'ils ont coûté 500 000 euros avec des aides, mais voilà, c'était des gros projets et c'est le projet. Enfin, pour moi, l'école, c'est le centre de vie de la commune. Le TIMAD en est un deuxième, mais l'école, c'est le centre de vie et sans école, bah, c'est compliqué pour un bourg de continuer à exister.
Ouais, ça me fait penser à quelque chose, c'est que vous avez, je crois, hein, découvert qu'il n'y avait pas que. Ce bâtiment qui était classé au monument, c'est l'ensemble.
Ils ont profité pour classer l'ensemble de la place, donc l'église, la mairie, la place, l'ancien poste de douane qui est en bas de la place et les quais et le quai d'honneur de la place. Ouais. Tout ça a été classé en même temps.
Ouais. Ça veut dire des contraintes supplémentaires pour la mairie, tout ça, ou pas?
Bah, ça veut dire de travailler plus avec l'architecte des bâtiments de France et de l'associer dès le départ sur nos projets. Ouais.
D'accord. Bon, Bernard, on ne vous a pas trop entendu, on va vous faire parler un petit peu. Alors vous, vous aviez été élève, c'est ça, d'environ 1953-1958. On vient d'entendre les propos de Gaël qui est en train de préparer une nouvelle école. Vous l'avez connu donc, dans cette période-là, c'était il n'y a pas très longtemps, hein, 1953 ça. Ça va ? Vous avez quel âge ?
J'ai eu 77 ans.
C'était comment à l'intérieur ? En 1953 ? Vous aviez quel âge en 1953 ?
Ben, j'avais entre 5 ans et 11 ans.
Ouais.
Et c'était... c'était l'époque... Hein. Ces classes nous paraissaient quand même... lumineuse, bien organisée, les classes traditionnelles avec des choses au mur, au plafond, donc
un joli parquet au sol.
Ah, bien sûr, un parquet qu'on devait nettoyer tous les matins, balayer. On passait de l'eau avant de balayer la poussière, bien sûr.
Ah, c'était la première chose qu'on faisait quand on arrivait en classe.
Ah, bien sûr, il y avait un tour de garde, si je peux m'exprimer ainsi.
Ah oui, d'accord. Et ça, ce serait interdit, par exemple, d'avoir un parquet massif au sol.
Non, ce serait pas interdit, mais maintenant, on est plus sur des choses comme du lino ou quelque chose de plus facile à entretenir. Ouais.
D'accord. Il y avait combien de classes à l'époque ?
Alors, il y avait 3 classes de garçons et je pense 2 classes de filles.
Parce que c'était...
Parce que, il y avait une école de garçons, une école de filles. Donc forcément, j'ai fréquenté essentiellement ou voire uniquement le côté garçon, mais il me semble qu'il y avait 2 classes de filles.
Il y avait un mur, un grillage qui séparait les deux.
Il y avait 2 entrées distinctes.
Ah oui, et dans la cour de récré.
Ah, on voyait jamais les filles dans la cour de récré. Parce que les garçons étaient juste devant le bâtiment actuel.
Okay.
Et les filles étaient dans la cour qui était derrière les bâtiments. Donc en fait, on ne se voyait jamais.
D'accord. Et alors, c'était séparé. Et ça, on se chauffait et on s'éclairait comment à l'époque?
On s'éclairait. Non.
Électricité, quoi.
Oui, avec... mais le chauffage, je ne me souviens plus trop quel type de chauffage il y avait.
Alors moi, j'ai entendu parler, j'ai des petites histoires comme ça, comme quoi il y avait un poêle à bois au milieu des salles et qu'on chauffait parfois les salles de classe avec, au feu de bois.
Alors, je n'ai pas le souvenir ici à Port-le-Nez. Par contre, à Châtelain, effectivement, dans les classes, il y avait des poêles à mazout. Et ici à Port-le-Nez, je ne me souviens pas que les élèves étaient sollicités pour, comme on le faisait au lycée à Châteaulin, allumer tous les matins le poêle à mazout. J'ai pas le souvenir.
D'accord. Vous vous souvenez de comment vous étiez habillé à l'école? Vous aviez des blouses?
On avait bien évidemment une blouse.
Oui, une grande blouse.
Une grande blouse. Je la vois toujours grise.
Ouais. Hein,
qu'on devait fermer. Bien sûr, tous les élèves étaient logés à la même enseigne à ce moment-là. Hein.
Ouais. Et l'école, c'était quoi les horaires? C'était tous les jours, du lundi au vendredi?
Non, il y avait le samedi matin également.
Ouais.
C'était lundi, mardi, mercredi. Je crois que le jeudi, c'était le jour de pause à ce moment-là. Et vendredi et samedi matin, il me semble. Peut-être même le samedi après-midi, je ne suis plus trop sûr.
Ouais. Et les horaires, c'était quoi, 8h-17h?
Oh non, c'était... je pense qu'on commençait à 9h, 9h midi, 2h, je sais pas, 5h peut-être.
Ouais, vous vous souvenez aussi du matériel et puis, que vous utilisiez pour écrire?
L'encrier et la plume, bien sûr.
Alors, la plume d'oiseau quand même.
Ah mais on avait un porte-plume et un encrier sur la table. On avait des tables de deux personnes avec chacun son encrier et on avait un porte-plume, et on écrivait uniquement en porte-plume.
Pourquoi?
Le stylo n'était pas connu à l'époque. Hein.
Ça n'existait pas?
Bon, je pense pas, non.
Non.
Tout était fait au porte-plume. Sur les vieux cahiers que j'ai à la maison, je vois encore la trace de l'encre et des porte-plumes, des pâtés qu'on faisait de temps en temps sur le cahier, les remarques du maître, parce que régulièrement, il relevait le cahier, et puis quand il y avait un pâté, donc une goutte d'encre qui tombait, il mettait un rond autour, un point d'interrogation. Non, on était très, très suivis.
Ouais, donc la blouse, elle servait uniquement à protéger les vêtements?
Bien sûr.
Oui. On écrivait aussi au tableau avec des craies.
Ah bien.
Il n'y avait pas de vidéoprojecteur.
Oh.
Pas de choses comme ça à l'époque? Non, ça n'existait pas.
Non, pas du tout.
Il y avait une discipline de fer aussi, j'imagine?
Il y avait une discipline. Mais de fer, on ne peut pas dire de fer. Elle était bien acceptée et ça se passait bien.
C'était comme ça partout, j'imagine?
Bien sûr que c'était comme ça partout.
D'accord. Et vous avez fait des bêtises à l'école? Parce que tout le monde en fait, hein, en fait, hein, je le sais.
Oui, on en a tous fait quelques-unes.
Comme quoi?
Hein.
C'est le moment des aveux. Hein.
Alors, il y en a une qui me reste en tête parce que mon papa avait été appelé à l'école et en fait, j'étais pas directement lié à ça. Il y avait. Donc, on avait souvent des socs ou des sabots. Et à l'arrière, donc, dans les. On avait des WC qui étaient à l'arrière. Et un jour, on a trouvé un sabot qui avait été lancé dans le WC. Le WC, c'était les choses simples, c'était un trou, et puis tout tombait à l'intérieur. Et quelqu'un avait dû dire que j'avais été la cause de ce jet de sabot dans le cabinet, ce qui n'était pas du tout le cas. Hein. Et puis autrement, il y avait des jeux dans la cour... C'était quand même, en termes de sécurité, c'était parce qu'il n'y avait pas de limite. Hein, il y avait juste un trait blanc limitant la cour. On ne devait pas franchir ce trait blanc. Sinon, les instituteurs qui étaient avec nous reprenaient. Mais il n'y avait pas de barrière et du tout. Bon, il y avait beaucoup moins de circulation que maintenant. Mais bon, c'était quand même sécurité minima. Hein.
Vous vouliez ajouter quelque chose?
Non, bah c'est ça, c'était de la cour des garçons, donc était sur la place, à l'air libre en fait.
Tout à fait.
On verrait même plus, enfin, on pourrait même pas imaginer ça maintenant,
non.
À l'heure de,
bah non.
du terrorisme et de et d'avoir maintenant, enfin, on a la départementale à côté, quoi. Donc c'est impossible d'imaginer ça maintenant.
Ça, c'est plus possible.
Ouais. C'était pas inintéressant parce que Polonais avait à ce moment-là plein de commerces. Et la récréation qui devait être autour de midi nous permettait d'avoir des échanges avec les polonistes qui venaient dans les différents commerces. Vous voyez, il y avait des échanges extrascolaires.
D'accord, on va devoir s'arrêter là. Les travaux, ils démarrent quand, Gaël ?
Les travaux donc, démarrent fin d'année, début d'année 2024, par la démolition d'une maison. Et après, on attaque en septembre l'année prochaine la rénovation, vraiment, ouais.
Bon bah c'est parfait, on viendra vous voir pour faire une petite réunion de chantier à ce moment-là. Bon bah merci beaucoup d'avoir participé.
Merci beaucoup.
C'est très très bien que l'école perdure.